Le journal Maxime Fayol.
Bonjour à tous. L'ambassadeur du pape en France accusé d'agression sexuelle. Une enquête est ouverte depuis 3 semaines à l'encontre de Monseigneur Luigi Ventura et il y aurait plusieurs victimes, nous révélera Mathilde Imberti.
La décision de Donald Trump de déclarer l'urgence nationale pour le financement du mur à la frontière mexicaine fait polémique. Plusieurs gouverneurs envisagent d'attaquer la décision du président américain en justice.
Nous irons en Afrique du Sud avec une autre décision controversée, l'abandon de l'usage de l'Afrikaans à l'université de Pretoria. La troisième langue du pays reste toutefois intimement lié au régime de l'apartheid. Et nous étudierons le lien entre la pollution et la dépression, car oui, il existe. Les particules fines n'ont pas qu'un lien sur la santé physique, mais aussi sur notre mental. Et on continuera de parler santé avec vous, Caroline, et votre invitée de la deuxième heure.
Oui, système de santé publique. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, a présenté, vous savez, son projet de loi santé en Conseil des ministres mercredi. Notre invitée est médecin à l'hôpital Bichat à Paris. Elle est hépato-gastro-entérologue et vice-présidente de la commission médicale d'établissement de la PHP. Anne Gervais sera avec nous tout à l'heure.
De nouvelles accusations d'agression sexuelle au sein de l'Église catholique. Les faits sont récents. Ils se sont déroulés à Paris le mois dernier lors d'une cérémonie de vœux à la mairie. L'enquête vise le nonce apostolique Monseigneur Luigi Ventura. C'est le représentant du pape en France. Il est soupçonné d'avoir mis la main aux fesses d'un homme d'une trentaine d'années à plusieurs reprises lors de cette cérémonie. Mais selon vos informations, Mathilde Imberti, il pourrait ne pas être la seule victime du prélat italien.
Un témoignage en particulier que nous avons recueilli laisse penser que le nonce apostolique n'en est pas à ses premiers gestes déplacés. C'est un jeune homme proche de l'église qui raconte que Monseigneur Ventura lui a mis la main aux fesses, puis une fois assis pour un entretien, a laissé sa main longuement sur sa jambe. C'était il y a quelques semaines à l'Annonciature à Paris. Des gestes qui se seraient répétés avec d'autres jeunes hommes, des amis de notre témoin. Aucun d'entre eux n'a porté plainte. À Rome, le Vatican a réagi et rapidement à l'ouverture de cette enquête. Un mail laconique nous est parvenu en début d'après-midi hier. Nous avons appris par la presse qu'une enquête est ouverte. Nous attendons ses résultats, écrit le directeur de la salle de presse. Luigi Ventura est un diplomate chevronné. Le poste d'ambassadeur à Paris est un poste prestigieux dans la diplomatie vaticane. Ce prélat du nord de l'Italie y a accédé en 2009 après avoir sillonné la planète en tant que nonce en Afrique, puis au Chili et au Canada. À Paris, il occupe une double fonction, à la fois chargé de représenter le Saint-Siège auprès de l'État français et chargé des relations entre Rome et l'Église catholique française.
Les précisions de Mathilde Imberti. Une nouvelle fusillade aux États-Unis. Cette nuit, cela s'est passé dans une zone industrielle près de Chicago, dans l'Illinois. 5 personnes sont mortes, plusieurs autres ont été blessées. Le tireur a été abattu par la police.
Aux États-Unis toujours, les réactions sont vives après la décision de Donald Trump de déclarer l'urgence nationale pour financer son mur.
Un projet phare pour le président américain. Donald Trump a accepté de signer le compromis politique pour éviter un nouveau shutdown si et seulement s'il pouvait engager cette procédure. Ce mur à la frontière mexicaine est pour lui l'unique façon de lutter contre l'invasion de drogue, de criminels et de migrants illégaux. Mais sur sa route pour construire ce mur, Donald Trump va trouver l'opposition démocrate, Gregory Phillips, prête à tout pour empêcher cette procédure d'urgence.
Speaker démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, dit qu'elle examine toutes les options possibles pour contester cette urgence nationale, d'abord au Congrès, puis s'il le faut devant les tribunaux. Car, dit-elle, cette procédure d'urgence est illégale et marque un abus de pouvoir de la part de Donald Trump. Une loi datant de 1976 autorise pourtant les présidents américains à contourner ainsi le Congrès pour débloquer des fonds de manière exceptionnelle. W. Bush l'a fait après les attentats du 11 septembre 2001 ou Obama au moment d'une grave crise de grippe H1N. Mais ce que les démocrates conteste aujourd'hui, c'est la réalité de cette urgence migratoire. Comme le disait hier soir Stacey Abrams de l'État de Géorgie, c'est elle qui, en début de mois, avait été désignée par le parti pour répondre au discours sur l'état de l'Union du président.
C'est la prérogative du président de déclencher une procédure d'urgence. Je pense qu'il n'y a pas de débat là-dessus. Mais là, il n'y a pas d'urgence. C'est un mensonge et c'est juste un coup politique.
Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, dénonce une dérive autoritaire et anticonstitutionnelle. Les États démocrates de New York et de Californie font savoir qu'ils sont prêts à aller au tribunal pour contester cette décision. Donald Trump, enfin, se dit certain de gagner au nom de la sécurité nationale, même s'il faut pour cela aller jusqu'à la Cour suprême.
Gregory Phillips. Le Nigeria reporte in extremis son élection présidentielle. Une réunion s'est tenue cette nuit pour en décider. La commission électorale pointe des problèmes logistiques pour justifier cette décision. Plusieurs de ses locaux ont été incendiés ces derniers jours. La décision du report est critiquée par les principaux partis politiques nigérians. L'élection aura finalement lieu la semaine prochaine. En Afrique du Sud, l'université de Pretoria a donc décidé d'abandonner l'usage de l'Afrikaans comme l'une de ses langues officielles. L'Afrikaans est une langue dérivée du néerlandais parlée par les colons arrivés en Afrique du Sud. Elle est parlée aujourd'hui par 15 millions de personnes, très utilisée encore dans l'administration. Mais elle est surtout et fortement rattachée au régime de l'apartheid. Cette décision de l'université de Pretoria provoque donc de vives réactions, Noé Ochebaudin.
Oui, c'est une décision qui fait polémique dans un pays où l'afrikaans est encore une langue très répandue, mais une décision logique, selon Tamim Tambou, le porte-parole de l'université de Pretoria.
60% de nos étudiants sont noirs et ne parlent pas afrikaans, et seulement 18% des étudiants parlant afrikaans préfèrent suivre l'enseignement dans cette langue.
Dans la cour de l'école, on entend parler zoulou, par exemple, ou encore l'afrikaans. L'université a pris la décision pour également, je cite, décoloniser l'éducation. David est à la tête du bureau des étudiants.
La plupart des universités étaient considérées comme étant des structures coloniales. Donc la langue de la puissance coloniale était utilisée pour enseigner.
Les étudiants afrikaners, comme Jacobus, se sentent eux personnellement visés par la décision.
L'afrikaans a été décrit comme une mauvaise langue à cause de son histoire et de l'apartheid. Donc c'est considéré comme la langue de l'oppresseur, ce qui était le cas avant, mais ça ne l'est plus aujourd'hui. Je ne me sens pas être un oppresseur à chaque fois que je parle ma langue maternelle.
Le grand lobby de la minorité blanche, AfriForum, a porté plainte contre l'université pour discrimination contre les étudiants afrikaans.
Le reportage en Afrique du Sud de Noé Ochebaudin.
L'heure est à 8h07 sur France Culture. Suite du journal, et justement cette heure, elle est à l'apaisement entre la France et l'Italie, puisque l'ambassadeur français est de retour à Rome depuis hier.
Oui, son rappel la semaine dernière par Paris a crispé les relations entre les deux pays. La crise semble s'apaiser, preuve en est, le président italien Sergio Mattarella est invité à Paris par Emmanuel Macron. De l'apaisement donc, mais seulement en apparence, car sur le fond, de nombreux dossiers brûlants ne sont toujours pas réglés. Exemple, avec le tunnel ferroviaire entre Lyon et Turin, les experts italiens se sont prononcé contre ce projet cette semaine et la coalition au pouvoir est d'ailleurs divisée sur ce sujet. En France, la ministre des Transports demande une réponse rapide du gouvernement italien sur ce projet vieux de 30 ans et qui a d'ailleurs déjà commencé. Louise Baudet, vous vous êtes rendue dans l'antre de ces travaux à Chiomonte dans le Val de Suse.
On arrive là presque al confine di Stato, à la frontière entre France et Italie.
Voyage au centre de la Terre, 1000 mètres de roche au-dessus de la tête, simple tunnel de reconnaissance achevé il y a 2 ans.
On a des petits travaux de maintenance et les avis de marché qui sont congelés en ce moment.
Pierre Giuseppe Gilli, directeur construction, peine à imaginer que tout cela s'arrête.
On travaille à des profondeurs où jamais des hommes sont arrivés, donc pour un géologue c'est extraordinaire.
Extraordinaire, pas pour tout le monde. La Lyon-Turin ou TAV Treno Alto Velo. C'est 30 ans de lutte dans le Val de Suse contre un projet jugé inutile et dangereux. Une ligne à 8 milliards ou 20 milliards qui débarrassera les routes des camions ou polluera à coups d'amiante et d'uranium. Depuis longtemps, le patronat a choisi son camp.
Cette infrastructure, c'est le futur. On ne peut pas revenir en arrière. Sinon, on va rester avec un tunnel du 19e siècle.
Pour Giorgia Carola de la Confindustria du Piémont, tout est la faute des 5 étoiles opposants historiques au projet.
Il célèbre la décroissance heureuse. On ne peut pas se le permettre. Nous devons créer de la richesse, pas entrer en récession.
Avis partagé par Matteo Salvini, qui à Rome gouverne avec les 5 étoiles. Allié jusqu'à quand, s'interroge Viviana Ferrero, vice-présidente 5 étoiles du conseil communal de Turin.
Dans toutes les familles, c'est le plus fort qui l'emporte. Pour Salvini, oui, c'est une façon de montrer sa domination. Mais sur le fond, il faut que le chantier s'arrête.
Arrêter ou continuer, le retour de l'ambassadeur français à Rome n'y fera sans doute doute rien, car la Lyon-Turin est l'enjeu d'un bras de fer italo-italien suspendu à une coalition à l'avenir incertain.
Louise Baudet. Plusieurs centaines de jeunes, des collégiens, des lycéens et des étudiants se sont réunis hier devant le ministère de la Transition écologique à Paris. Ils sont venus protester contre l'inaction du gouvernement en matière de lutte contre le dérèglement climatique. Une grève pour le climat inédite en France, Adrien Toffolet, sur le modèle de ce qui se passe depuis plusieurs semaines dans de nombreux pays européens.
Des bandeaux verts accrochés aux bras, dans les mains, des pancartes avec marqué « Non-assistance à planète en danger ». Des centaines de jeunes sont amassés sur les trottoirs, bloquant parfois la circulation sur le boulevard. Parmi eux, Anakin, un lycéen de 15 ans qui entend mettre la pression sur le gouvernement.
Par respect pour nous, les générations à venir, ils doivent limiter au moins la casse et faire leur maximum pour qu'on n'ait pas des conséquences trop lourdes et impossibles à affronter, quoi.
Ils ne sont que quelques centaines pour cette première grève scolaire devant le ministère. Peu importe pour Chloé, 24 ans, qui est persuadée que ces mobilisations partout dans le monde ont un impact.
On a vu à travers l'exemple de Greta Thunberg, la Suédoise, que oui, l'adolescente est capable de mobiliser, qu'elle est capable d'être visible sur la scène internationale, et on a envie de montrer qu'on n'attend pas que les choses se passent.
Et visibles, ils l'ont été. Après une demi-heure de sitting, une porte s'ouvre.
Bonjour à toutes et à tous.
La secrétaire d'État, Brune Poirson, prend la parole.
Derrière ces portes-là, contrairement peut-être à ce que certains peuvent penser, vous n'avez pas des adversaires, mais des alliés. Et dans certaines des choses que vous êtes en train de dire, je partage une partie de vos conclusions.
Les organisateurs de l'action sont invités dans son bureau au bout d'une heure d'entretien. Aucune avancée, regrette Jules Spector, le secrétaire général du syndicat FIDL.
On a décidé qu'on allait entamer un dialogue global avec la jeunesse de manière régulière. Peut-être dans le cadre du grand débat, ce sera à voir. Mais globalement, il n'y a pas eu de réelle avancée.
Et le rendez-vous pour la deuxième grève scolaire est déjà pris la semaine prochaine, même heure, même endroit.
Et 1, 2 et 3 degrés, c'est un crime.
Reportage d'Adrien Toffolet. Autre manifestation prévue ce samedi, celle des Gilets jaunes. Habitude depuis maintenant 14 semaines consécutives. Difficile toutefois de prévoir la mobilisation d'aujourd'hui car les porte-paroles sont assez évasifs sur ces rassemblements. Il se pourrait bien que des manifestations aient lieu demain, les Gilets jaunes souhaitant marquer le coup pour les 3 mois du mouvement.
Les Gilets jaunes qui poursuivent leur mouvement pendant que le grand débat national en est à sa mi-temps.
Oui, 1 mois est déjà passé sur les 2 de cette consultation et il n'est pas certain que la proposition d'Édouard Philippe hier soit plébiscité au sein de ce grand débat. Le Premier ministre suggère que les bénéficiaires des aides sociales rendent des contreparties à l'État. Une mesure explosive, Édouard Philippe le reconnaît lui-même. Mais la proposition n'est pas nouvelle, Stéphane Robert, elle est même à l'essai en Alsace depuis 2 ans.
Et si on exigeait des contreparties en échange des droits et des prestations sociales qu'on accorde? C'est la question soulevée hier par le Premier ministre Édouard Philippe depuis Plomodierne dans le Finistère. Cette idée n'est pas nouvelle, Laurent Wauquiez avait proposé d'en instituer le principe lorsqu'il était aux côtés de Nicolas Sarkozy en 2011 et le département du Haut-Rhin en Alsace l'a mise en place depuis 2017 sur la base du bénévolat. Environ 800 allocataires du RSA, le Revenu de Solidarité Active, effectuent aujourd'hui quelques heures de travail d'intérêt général en échange de leur allocation. Alors il ne s'agit pas de prendre cette proposition du Premier ministre au pied de la lettre, il n'annonce pas sa mise en place prochaine, il convient plutôt d'y voir 2 objectifs pour Édouard Philippe. Premièrement, l'exécutif est actuellement en phase de reconquête en vue des élections européennes de mai prochain et il sait que c'est à droite que se situent les réserves de voix pour En Marche. Cette mesure qui s'adresse plutôt à un électorat de droite vise donc à montrer que le pouvoir en place est en phase avec cet électorat. Deuxièmement, cette annonce à valeur de test, lancée en direction de l'opinion, les ministres du gouvernement multiplient les ballons d'essai depuis le début de l'année. L'exemple récent de la suppression d'un certain nombre de niches fiscales en est éteint. Et pourquoi pas donc désormais des contreparties en échange des prestations sociales. L'idée cette fois est sans doute de suggérer un certain nombre de propositions dont pourrait peut-être s'emparer la population dans le cadre du grand débat.
Stéphane Robert. Intéressons-nous maintenant à la pollution de l'air. Chaque année, selon l'Organisation mondiale de la santé, elle tue plus d'1 million de personnes dans le monde. Des maladies respiratoires, des cancers. Mais il y a un autre impact que l'on ne soupçonnait peut-être pas, celui sur la santé mentale. C'est le résultat d'une étude menée auprès d'enfants britanniques jusqu'à leur majorité. Et elle confirme un lien, Sophie Bécherel, entre pollution et dépression.
Pour cette étude, les chercheurs britanniques ont étudié un groupe de 284 enfants vivant dans des régions plus ou moins polluées de Grande-Bretagne, en ville et à la campagne. Ils les ont suivis depuis l'enfance, mais ont mesuré leur santé mentale à 12 ans, puis à 18 ans. 2 polluants ont été étudiés, les particules fines de 2 microns et demi et le dioxyde d'azote. Résultat, les adolescents de 18 ans vivant dans les zones les plus polluées ont 4 fois plus de risques de développer une dépression. En banlieue, les taux de pollution, notons-le, étaient supérieurs à la norme européenne admise. l'Église. Dans leur groupe représentatif de la diversité de la population, les chercheurs ont regardé aussi l'impact du milieu social, les antécédents psychiatriques de la famille ou encore le tabagisme. Ils n'ont pas trouvé de lien avec la dépression. Selon Hélène Fischer, responsable de cette étude, même si les causes précises n'ont pas été élucidées, il est probable que ce qui explique cette situation, c'est l'inflammation dans le cerveau causée par les particules fines. Elles sont capables de traverser la barrière hémato-encéphalique. La chercheuse insiste sur le besoin de décisions politiques. Les enfants, explique-t-elle, parce que leur cerveau est en plein développement, sont les premières victimes de la pollution de l'air.
Sophie Bécherel, la météo de ce samedi, c'est une nouvelle journée ensoleillée sur l'ensemble du pays, selon Météo France. Il fait frais ce matin, de moins 3 à 0 sur le nord, mais ça remonte jusqu'à 19 degrés au sud cet après-midi.